France Culture. Ils ont changé le monde. Les accords internationaux. Isabelle Lasserre.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série d'été des grands accords internationaux. Aujourd'hui, nous allons parler des accords START, les traités de réduction des armes stratégiques négociés entre les États-Unis et l'Union soviétique, puis la Russie. Le premier, START 1, a été signé en juillet 1991 par les présidents américains George Bush et soviétique Mikhail Gorbatchev, quelques mois seulement avant la dislocation de l'URSS. Le deuxième n'a pas été appliqué et le troisième, New START, a été conclu en avril 2010 par Barack Obama, qui avait à l'époque fait du rapprochement avec la Russie un de ses objectifs de politique étrangère, et Dmitri Medvedev, le président russe d'alors. New START, dont l'accouchement avait été très laborieux, limitait à 1550 contre 2200 avant le nombre des têtes stratégiques que les deux pays pouvaient déployer et à 700 le nombre de leurs lanceurs. Il prévoyait aussi une vérification mutuelle sur les sites militaires. À deux reprises donc, malgré leurs divergences, les deux plus grandes puissances nucléaires de la planète, qui à elles seules concentraient 90% de l'arsenal mondial, ont su se mettre d'accord pour s'engager sur la voie d'un désarmement relatif. Ce temps-là est révolu depuis que Vladimir Poutine, en février 2023, a suspendu la participation de la Russie au traité New START, remettant ainsi en cause le dernier accord bilatéral du genre liant les Russes et les Américains. La décision du président russe n'a fait que confirmer la dislocation de l'architecture de contrôle des armements depuis 20 ans, créant un dangereux vide. Quelles conséquences cette décision a-t-elle pour la prolifération nucléaire dans le monde? Est-elle réversible si le rapprochement entre Donald Trump et Vladimir Poutine se poursuit? C'est de tout cela et de beaucoup d'autres choses dont nous allons discuter aujourd'hui avec Héloïse Fayet. Bonjour.
Bonjour.
Spécialiste du nucléaire militaire, vous êtes responsable du programme de recherche de dissuasion et de prolifération à l'IFRI. Et Louis Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Ancien secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale. Vous êtes aussi fondateur et directeur de la chaire Grands enjeux stratégiques contemporains à la Sorbonne. Bienvenue dans le studio de France Culture tous les deux. Je voudrais d'abord faire un petit retour sur les traités START. Quelles étaient leur genèse? À quoi ont-ils servi? Et qu'ont-ils apporté à la sécurité mondiale, Héloïse Fayet?
Oui, alors les traités START, en fait, sont déjà les héritiers de traités plus anciens, donc les accords SALT, qui, eux, avaient été signés pendant la guerre froide, et qui, en fait, étaient une conclusion du fait qu'il était quand même extrêmement dangereux d'avoir beaucoup d'armes nucléaires, parce que c'est ce qui a été à l'origine de ces accords-là, c'est que plus vous avez d'armes nucléaires, plus, en fait, le risque, notamment d'emploi par inadvertance, est élevé, et surtout, en fait, ça vous oblige à consacrer une grosse partie, notamment de votre budget, par exemple, aux armes nucléaires. Et donc, après la crise de Cuba et plusieurs autres, en fait, incidents pouvant impliquer des armes nucléaires pendant la guerre froide, il a été décidé de signer donc les accords SALT pendant la guerre froide et ensuite les accords START qui interviennent tout de même dans un contexte très particulier, étant donné que c'est la fin de la guerre froide, c'est donc le début de ce qu'on a appelé peut-être à tort maintenant les dividendes de la paix et cette période où en fait les armes nucléaires avaient un rôle beaucoup moins important qu'aujourd'hui à jouer dans les relations internationales et puis on souhaitait repartir sur de bonnes bases, on va dire, entre les États-Unis et la Russie. La Russie aussi, vous voyez bien que c'est pas forcément positif pour son économie que de conserver énormément de têtes nucléaires, parce que ça coûte quand même assez cher à entretenir. Et donc, effectivement, il y avait ces accords qui, et ça c'était une nouveauté en fait par les accords START, qui concernaient à la fois donc la réduction du nombre de têtes nucléaires déployées et non pas du nombre de têtes nucléaires possédées, parce qu'en réalité, les États-Unis et la Russie peuvent posséder plus de têtes que 1500, mais c'était des nombres de têtes nucléaires stratégiques déployées.
Louis Gauthier.
Oui, on y reviendra sans doute, mais je pense qu'Héloïse a complètement raison d'inscrire ce traité START dans une généalogie de traités qui accompagne d'abord la phase de la détente des relations internationales. On peut dire qu'il y a eu un acmé de la crise avec Cuba, et puis ensuite, Américains et Soviétiques sont rentrés dans un cycle de négociations qui a concerné le nucléaire, mais pas que le nucléaire, souvenez-vous des accords d'Helsinki. Et c'est cette période de détente, avec deux accords, Solte 1, Solte 2, qui ne sera pas appliqué, et puis la reprise dans le basculement de la fin de la guerre froide, dans ce cycle de traité START, qui ne prévoit pas simplement la limitation, mais la réduction des armements nucléaires. Et là encore, une deuxième génération, START 1 qui est restée en vigueur en fait jusqu'en 2009-2010 et la reprise par New START. Et puis d'autres négociations qui ont été menées, START 2, START 3, SORT, etc., qui n'ont pas vu leurs effets se manifester réellement parce que en fonction, tout s'est traité comme toujours. Il y a une partie de poker menteur. On va dans la bonne direction, mais en même temps, on exploite les faiblesses de l'autre, et puis on réagit aussi en fonction des circonstances. Donc ça, c'est le premier point, et ce qui est aussi très important, c'est de signaler que, au fond, ce traité, il est signé en juillet 91. Après, ce qui est pour moi l'élément emblématique du début de la post-guerre froide, qui est la guerre du Golfe, et avant l'explosion de l'Union soviétique en décembre 91. Donc on est vraiment là dans un point de cristallisation de l'histoire, y compris pour ces accords de désarmement, qui vont donner une architecture qui malheureusement est remise en cause aujourd'hui complètement, qui s'est effondrée, et qui a permis d'accompagner ce risque qu'évoquait Héloïse, qui est quand même le risque des armes nucléaires. Ces traités, c'est des traités bilatéraux. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu aussi des accords multilatéraux qui ont concerné les autres puissances nucléaires, en particulier ce qui est la cheville ouvrière de la paix nucléaire, qui était de la non-prolifération, qui était le TNP, mais d'autres accords d'interdiction des essais, etc., etc. Plus du désarmement unilatéral. Donc la période post-guerre froide, c'est la volonté des deux grands de continuer à faire comme si, dirais-je, l'ordre de la planète, mais aussi un désarmement unilatéral profond, la France l'a fait beaucoup, on y reviendra sans doute, et puis des efforts de désarmement multilatéraux. Et aujourd'hui, tout ça est par terre. Vous avez signalé la dénonciation du traité New START en 2023 par Poutine, mais il faudrait signaler aussi le rôle j'allais dire particulièrement dommageable, iconoclaste, de Trump, qui certes, à des moments où ces traités commençaient à être obsolètes, a dénoncé successivement le traité sur les armes intermédiaires, le JCPOA, le traité ciel ouvert. Et ça fait quand même beaucoup, et ce qui explique qu'aujourd'hui, on soit très inquiet, à la fois de l'absence de discipline et des acteurs qui seraient censés remettre de la discipline dans cette architecture nucléaire.
Alors, on va écouter un son qui est une archivina, on va revenir à l'époque, hein, Barack Obama et Dmitri Medvedev qui signent le traité New START à Prague le 8 avril 2010.
120 pages de traité, un bon kilo et demi d'annexes, un droitier et un gaucher pour une signature obtenue à l'arraché mais qui marque le vrai redémarrage des relations entre les deux anciennes puissances de la guerre froide. Peut-être à cause du décor baroque du château de Prague, Obama et Medvedev ont rivalisé de superlatifs. C'est une nouvelle page qui s'ouvre, c'est la fin d'une dérive dans nos relations.
Quand les États-Unis et la Russie sont capables de s'entendre sur les dossiers les plus importants, c'est bon pour nos deux pays, mais aussi pour le monde entier.
Le président russe est encore plus enthousiaste.
Le plus important, c'est qu'il n'y a pas un gagnant et un perdant dans ce traité. C'est gagnant-gagnant.
Alors là, c'était l'époque du reset hein, de Barack Obama, c'est-à-dire le redémarrage des relations avec la Russie. On a changé d'époque. Enfin, pas pour le reset d'ailleurs, puisqu'il revient, on en parlera après, mais on n'est plus dans le même monde.
Oui, bien sûr, mais c'est ça qui est paradoxal, et on en reparlera effectivement, c'est qu'aujourd'hui, par contre, Donald Trump parle très ouvertement de dénucléarisation et souhaite en fait revenir justement un peu à ce monde-là avec, pourquoi pas, un accord trilatéral entre Russie, Chine et États-Unis. Mais là, la signature en fait de New START, donc en février 2011, qui expire du coup en février 2026, étant donné qu'il a été renouvelé en 2021 pour 5 ans, ça prenait place dans un contexte assez particulier où il faut se rappeler aussi que Barack Obama s'était engagé, lui, 2 ans plus tôt, à essayer justement d'aller vers un mouvement global de désarmement, et ça a été peut-être le président américain le plus désarmeur de
oui,
ces dernières années.
Oui, d'ailleurs, il disait « je rêve d'un monde sans armes
c'est
nucléaires ».
C'est ça, tout à fait. C'était le début du mouvement Global Zero vers un désarmement complet. Alors, il faut se rappeler que dans le traité de non-prolifération nucléaire dont la Russie, les États-Unis, la France font partie, il y a un article de ce traité qui enjoint les puissances nucléaires, donc dont la France fait partie, à aller justement vers ce désarmement. Mais ça va extrêmement lentement et donc Barack Obama, lui, avait essayé de vouloir aller un petit peu plus vite avec ce mouvement Global Zero. Dans un premier temps, donc Joe Biden s'était aussi inscrit dans cet héritage-là au cours de sa campagne donc en 2019-2020. Et puis, bon, finalement, le contexte international fait qu'on n'est pas du tout maintenant vers un désarmement nucléaire, mais qu'au contraire, malheureusement, les armes nucléaires retrouvent en fait l'attrait qu'elles avaient, eh bien, pendant la guerre froide, où elles apparaissent comme la garantie suprême de sécurité face à des États eux-mêmes nucléaires. Et donc, en fait, depuis quelques années, on voit l'inverse, c'est-à-dire une augmentation des arsenaux nucléaires. Alors, surtout en Chine, et on en parlera parce que la Chine est pour l'instant liée par aucun traité de maîtrise des armements à part le traité de non-prolifération. Mais après, il y a aussi en Inde, au Pakistan, ouais, ça augmente un petit peu.
On va en parler, mais j'en profite pour faire une toute petite parenthèse historique sur ce que vous avez dit. Déjà à l'époque, il me semble que les rêves de Barack Obama d'un monde débarrassé de toutes les armes nucléaires paraissaient complètement utopiques. Parce que déjà à l'époque, en fait, les Occidentaux désarmaient, mais d'autres puissances révisionnistes et autoritaires comme la Chine continuaient à augmenter leurs arsenaux, non ?
Alors, à l'époque, la Chine, non. C'est-à-dire qu'ils étaient encore sur un arsenal inférieur à celui de la France, par exemple, et du Royaume-Uni. Le développement chinois, il est vraiment récent. Enfin, il date des années 2019-2020. Mais oui, en fait, vous aviez quand même Vladimir Poutine qui avait fait 2 ans plus tôt son discours à Munich où il avait quand même une vision un petit peu différente sous celle de Barack Obama sur le fonctionnement du monde. Mais, comme disait Louis Gauthier, le désarmement, ça reste, voilà, un jeu un peu de poker menteur. Et donc, il faut être quand même à un moment le premier à s'engager sur cette voie-là en espérant que les autres suivent derrière. Et donc Barack Obama avait un peu cette vision qui d'ailleurs ensuite lui a valu le prix Nobel de la paix. Alors certains disent aujourd'hui que c'était peut-être un petit peu surcoté. Mais il y avait aussi une pression de la société civile, ce genre de choses. Et puis à nouveau, on était en Occident dans un contexte géostratégique extrêmement différent, étant donné qu'on ne voyait pas du tout ce risque de retour de la compétition entre grandes puissances, mais plutôt la lutte contre le terrorisme, ou alors que en fait les conflits conventionnels allaient pouvoir être menés avec des armes non nucléaires. Donc par exemple des missiles longue portée, ce genre de choses, mais que effectivement les armes nucléaires étaient un petit peu plus quelque chose du passé et donc il était plus important en fait d'aller vers le désarmement et aussi vers la non-prolifération, c'est-à-dire empêcher des pays qui n'avaient pas l'arme nucléaire à l'époque de se doter de l'arme nucléaire et donc tout ça justement dans un contexte de rendre les armes nucléaires moins attractives.
Louis Gauthier.
Oui, alors quand même, Ezri Fayet le disait, dans le TNP, il y a cet objectif d'aller vers un désarmement général et complet. Et on peut quand même constater que cette série de traités qui ont été passés ont conduit à des réductions spectaculaires des arsenaux nucléaires. On est passé de plus d'une dizaine de milliers de vecteurs et de têtes à aujourd'hui quelques milliers, et on reviendra sur cette arithmétique des arsenaux et leur évolution. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que par rapport à un autre mouvement qui est peut-être plus idéaliste, qui est du traité visant à l'interdiction complète des armements nucléaires, mais qui sont généralement proposés par des États qui ne sont pas nucléaires, ces disciplines de désarmement, de contrôle, de maîtrise des armements par les États nucléaires, c'est-à-dire par les principaux intéressés et par ceux qui font peser la principale menace, est évidemment beaucoup plus décisif, important. On a évoqué l'aspect quantitatif de ces traités, mais il y a aussi un aspect qualitatif, mesure de confiance depuis le téléphone rouge ou le télécrypteur rouge entre Moscou et Washington après la crise de Cuba, mais jusqu'au traité ciel ouvert qui permettait des vérifications, des inspections sur place, l'obligation de faire une communication sur ces sites d'armement, le nombre de têtes déployées. Donc, avec la disparition de ces traités, c'est aussi toute cette discipline de vérification, de contrôle qui tombe à l'eau. Et ça, c'est évidemment extrêmement dommageable. Alors, évidemment, l'histoire, elle se fractionne pas forcément à partir de dates qui se correspondent. Je pense qu'il y a eu un moment qui a été le champ du cygne de la poussée du désarmement, c'est 98, la fin des 98-2000, avec la prolifération, l'arrivée de deux nouveaux acteurs,
l'Inde et le Pakistan.
Et puis après, on voit bien que tout ce qui avait été l'effort en faveur de nouveaux instruments, le traité d'interdiction complet, la proposition d'arrêt de fabrication de matières fissiles, ce qu'on a appelé le traité cut-off que la France promouvait, tout ça disparaît un peu et Obama, c'est un peu la stratégie de rattrapage. Finalement, on avait laissé dériver, on avait maintenu le start 1 et il reprend les choses à un moment. Et là, 2008, maintenant les choses sont très claires, qu'on voit que la guerre en Ukraine a éclaté, on voit que la Russie, elle n'est plus sur une posture, défensive, de vaincue de la guerre froide, mais celle qui recherche un statut de puissance à travers des interventions. C'est l'Ossétie en 2008, ça va être ensuite les interventions
La Géorgie en 2008,
l'annexion de la Crimée en 2014, l'intervention sur le théâtre syro-irakien et 2022 l'Ukraine. Donc une puissance militaire qui cherche au contraire à recouvrer du statut de puissance et qui va notamment le trouver sur les armes nucléaires. On aura l'occasion d'en parler. Et donc là, on va basculer sur ce conflit de l'Ukraine, sans doute pour la première fois de l'histoire, et en tout cas pour la première fois de l'histoire post-guerre froide, dans un conflit en ambiance nucléaire. Toute la période post-guerre froide, le nucléaire, c'est les garanties ultimes des pays qui les possèdent. Mais il n'y a pas de gesticulation dans les conflits. Et là, à partir de l'Ukraine, il y en a eu à certains moments, il y en a eu des crises, on a évoqué Cuba. Mais rappelez-vous, Mitterrand, au moment de la guerre du Golfe, la première chose qu'il dit aux téléspectateurs, c'est non, ce conflit ne peut pas aboutir à une mise en cause de l'armement nucléaire français. Il va même plus loin. Il ne veut pas qu'on emploie les Mirage 2000 qui sont au top du top de la technologie et qui pourraient être armés conventionnellement, en disant non, il faut absolument qu'il n'y ait aucun risque, même symbolique, qu'on confonde conventionnel et nucléaire. Donc on a quand même vécu, grâce à ces traités, et je dirais jusqu'en 2022, même si progressivement les choses se dégradaient, dans un monde dans lequel les armes nucléaires servaient à assurer des garanties de sécurité aux pays détenteurs, mais n'intervenait pas dans les conflits. Et voyez bien aujourd'hui avec le conflit ou les escarmouches entre l'Inde et le Pakistan que la question est de nouveau sur la table.
Héloïse Fayet, rentrons dans le dur. Quelles sont les conséquences de la décision de Vladimir Poutine ?
Alors effectivement, comme Louis l'a rappelé, on a tendance souvent, quand on parle de maîtrise des armements ou de désarmement, à se focaliser sur les chiffres. En disant, 1550 têtes nucléaires. En réalité, quand on échange avec des négociateurs qui ont participé à la négociation sur New Start, et donc je recommande à tous nos auditeurs qui seraient intéressés par le sujet de lire les mémoires de Rose Gottmüller, qui était la chef, en fait, de la délégation américaine pour les négociations sur New Start.
Et qui était à la chaire stratégique l'année dernière.
Effectivement. Et qui maintenant est chercheuse aux États-Unis, donc de lire ses mémoires. C'était donc la chef de la délégation, la seule femme à avoir mené justement des négociations avec les Russes sur ces sujets-là. Et donc, en fait, elle explique que ça aurait pu être 1700 ou ça aurait pu être 1300 têtes. En réalité, on est sur des puissances telles que vraiment 10 de plus ou 10 de moins quand on est les États-Unis ou la Russie, c'est en réalité pas si important. Donc, la dimension quantitative est évidemment importante, mais comme le rappelait Louis Gossier, la dimension qualitative l'est aussi, et surtout tous les efforts de transparence et d'accès en fait aux données de l'adversaire. Et donc déjà, Vladimir Poutine a quand même expliqué qu'il allait maintenir justement les 1500 têtes jusqu'en février 2026. Alors probablement en réalité parce que la Russie n'a peut-être pas les moyens techniques et financiers de fabriquer beaucoup plus de têtes nucléaires aujourd'hui. Et qu'en parallèle, de toute façon, ils sont dans un mouvement. Aujourd'hui, en fait, c'est le problème. Depuis effectivement que Vladimir Poutine est sorti de New Start, on ne peut plus vraiment vérifier. Enfin, il n'y a plus d'inspecteurs américains qui vont en Russie pour inspecter les sites nucléaires russes. Et vice-versa. En revanche, en source ouverte, donc c'est toujours possible à peu près d'avoir une estimation de l'arsenal nucléaire russe. Là, c'est notamment la Federation of American Scientists qui publie chaque année des estimations en source ouverte des arsenaux de tous les États dotés et possesseurs de l'arme nucléaire. Mais c'est certain qu'en fait, il a donné un coup de canif dans le contrat de confiance qui l'unissait aux États-Unis. C'était un peu le dernier vestige de la guerre froide, même si en réalité, il en reste quelques-uns. Et notamment, en fait, un mémorandum qui avait été signé en 1987 sur les lancements de missiles balistiques entre la Russie et les États-Unis. Et donc, en fait, ce mémorandum tient toujours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les Russes font, par exemple, un essai balistique, alors sans tête nucléaire, hein, mais d'un de leurs missiles qui peut emporter une arme nucléaire, ils sont toujours obligés de notifier les Américains en amont et vice-versa. Donc, on a toujours quand même cette confiance au minimum qui règne. Et les centres de réduction des risques nucléaires, donc qui sont l'incarnation actuelle du téléphone rouge et qui sont en fait une grande salle avec énormément d'ordinateurs et 12 000 canaux de redondance, enfin peut-être pas 12 000, mais entre les États-Unis et la Russie, tiennent toujours aussi. Donc il y a quand même encore quelques mécanismes en fait de communication, de réduction des risques stratégiques, d'échanges entre la Russie et les États-Unis. Et puis, il y a toujours aussi des discussions qui ont lieu au niveau P5. Donc là, le P5, ce sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies qui se retrouvent plusieurs fois par an pour échanger sur leur doctrine, l'état des arsenaux, ce genre de choses. Donc on donne un petit bout en espérant recevoir un petit bout d'information de l'adversaire. Mais oui, c'est certain qu'il a donné un coup de pied dans cette architecture de maîtrise des armements. Et il l'a aussi fait en dératifiant le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. Ça, c'était un peu dans la même veine que l'arrêt de l'application de New START, qui est un autre traité, alors qu'il, lui, n'est pas encore entré en vigueur, mais qui donc interdit les essais nucléaires aux pays qui l'ont signé et ratifié, parce que ça permet en fait de ralentir la modernisation des arsenaux nucléaires, en plus, évidemment, que de réduire les conséquences environnementales des essais. Mais en fait, voilà, donc le New START n'a pas été, on va dire, la seule victime de la guerre en Ukraine, et en fait... De cette compétition stratégique qui prend le dessus sur cet héritage de la guerre froide.
Alors, on va écouter maintenant la réaction du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à la décision de Vladimir Poutine de suspendre sa participation à New START en 2023.
I regret today's decision by Russia to suspend its participation in the New START treaty.
Je regrette la décision prise aujourd'hui par la Russie de suspendre sa participation au traité New START.
Over the last years, Russia has violated and walked away from key arms control agreements.
Au cours des dernières années, la Russie a violé et renoncé à des accords clés sur le contrôle des armements.
With today's decision on New START, the whole arms control architecture has been dismantled.
Avec la décision d'aujourd'hui sur New START, toute l'architecture de contrôle des armements a été démantelée.
More nuclear weapons and less arms control makes the world more dangerous.
Plus d'armes nucléaires et moins de contrôle des armements rendent le monde plus dangereux.
And that's the reason why in NATO we have worked so hard engage Russia on issues related to arms control and why NATO allies have supported the New START.
Et c'est la raison pour laquelle, à l'OTAN, nous avons travaillé si dur pour impliquer la Russie dans les questions liées au contrôle des armements, et pourquoi les alliés de l'OTAN ont soutenu le New START.
And also why I'm calling on Russia today to reconsider its decision to suspend its participation in the New START agreement.
Et aussi pourquoi j'appelle aujourd'hui la Russie à reconsidérer sa décision de suspendre sa participation dans l'accord New START.
Louis Gauthier, c'est grave, docteur ?
Oui, c'est grave. Alors, évidemment, Stoltenberg est dans son rôle. C'est-à-dire qu'il fait porter tout le poids de la responsabilité sur la Russie dans la violation des accords. Souvenons-nous quand même que c'est George Bush Jr. qui le premier dénonce en 2001 un traité qui avait été signé en même temps que le traité Stolt, donc le premier traité de désarmement qui interdisait le déploiement de défense antimissile. Pourquoi ? Parce que les Américains et l'OTAN, à partir de 2001, vont essayer de déployer des stations de protection antimissile à l'est de l'Europe. Ce qui sera d'ailleurs un des éléments, j'allais dire plus que de la fâcherie russe, qui considéreront que ce déploiement du bouclier antimissile américain proche de leurs frontières est en soi un geste agressif. Donc si on laisse, je dirais, de ce côté qui est de bonne guerre, de polémiquer et de renvoyer la faute sur l'autre, il faut considérer deux choses. D'abord, Héloïse l'a dit, même si ces traités sont aujourd'hui en miettes, il y a une culture de la discussion qui reste. Il y a des habitudes, il y a des procédés. Il faut simplement les réanimer parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'instance dans laquelle on parle du désarmement, sauf le P5, j'y reviendrai. Deuxièmement, il y a aussi des mesures de vérification unilatérales. Les satellites, des stations terrestres qui permettent de voir quelle est l'activité en matière d'essais nucléaires ou en matière de positionnement de sites. Aujourd'hui, le globe est observable grâce au ciel. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas repartir du même pied. D'abord parce que la situation a beaucoup évolué. On assiste à une prolifération à la fois horizontale et verticale. Horizontale, c'est la multiplication des acteurs. Le coréen, qui dispose aujourd'hui au moins d'une cinquantaine de têtes.
Nord-coréen.
Nord-coréen, bien sûr. Une prolifération verticale, avec notamment dans le champ des missiles nucléaires à portée intermédiaire entre 500 et 5000. On l'a vu sur le missile qui a été tiré à Dnipro, heureusement sans tête nucléaire, que les Russes ont beaucoup investi, justement, profitant du vide du traité et d'une discipline. Donc on est dans un autre monde, et on est dans un monde où quand même les arsenaux se développent, notamment l'arsenal chinois. 4400 têtes russes, 3700 américaines, et Lise me contredira peut-être sur les chiffres, mais c'est pour donner des indications. La Chine aujourd'hui est à plus de 500 têtes, probablement 600. La France est restée à cette obligation qu'elle s'était donnée à elle-même d'être en deçà de 300 têtes, 290. Le Royaume-Uni autour de 220, l'Inde 172, le Pakistan 170, Israël, c'est pas 80, 90, et la Corée 50. Donc vous voyez qu'on est reparti même quantitativement dans un mouvement qui est quand même inquiétant. Et la multiplication des acteurs rend, je dirais, de plus en plus complexe le simple jeu de la dissuasion. On voit bien que ça peut fonctionner régionalement, d'une certaine manière l'Inde et le Pakistan le montrent, mais quelle est la discipline multinationale qui existe et comment, et les Américains ont raison, impliquer la Chine dans ce qui serait des discussions multilatérales ou à plusieurs sur la discipline nucléaire. Et d'une certaine manière, cet état de désordre, d'anarchie, fait craindre que d'autres acteurs, voyant qu'ils n'ont pas été assez protégés, repartent dans cette direction. Donc, on est dans ce que j'appelle, ou d'autres, un troisième âge nucléaire, caractérisé par la reprise de la prolifération horizontale et verticale, par le fait qu'il n'y a plus de structure pour parler de désarmement, et enfin, par le fait qu'on constate que des conflits entre États sont ambiancés nucléairement, la Russie, l'Ukraine, l'Inde, le Pakistan, mais on pourrait même dire aussi la confrontation entre Israël et l'Iran, quelque part, puisque une partie de cet antagonisme est liée au développement du programme nucléaire iranien.
Héloïse Fayet, sur ces questions, en fait, quels ont été les effets des menaces de Vladimir Poutine d'utiliser des armes nucléaires tactiques dans le monde ? Est-ce que, en fait, c'est responsable, je sais pas, de 50% de l'accélération du réarmement nucléaire? Est-ce qu'on peut le calculer, en fait?
Non, alors évidemment, c'est pas calculable. Et en fait, il y a de multiples leviers et raisons pour que des pays, soit ceux qui ont déjà l'arme nucléaire, augmentent leurs arsenaux, ou que d'autres qui ne l'ont pas soient tentés par la prolifération. Alors, sur l'effet, effectivement, de ce contexte nucléaire en Ukraine. Alors déjà, quand on regarde, en fait, la rhétorique nucléaire russe, on peut distinguer, justement, d'un côté, les prises de parole de Vladimir Poutine, qui en réalité s'est quand même montré assez modéré quand on le compare justement à Medvedev, à certains chercheurs think tankers comme Karaganov ou des journalistes. On se souvient, le plateau télé était très heureux de montrer qu'en 6 minutes, un missile nucléaire russe pouvait pulvériser Paris, alors qu'en fait c'est pas le cas. Mais en fait, il y avait cette dichotomie avec d'un côté un président assez modéré dans son rôle en fait de président et de responsable tout de même de la plus grande puissance nucléaire du monde, et de l'autre, pour le rendre encore plus responsable, pour le faire paraître plus responsable, une sorte de clique de personnes qui, elles, vraiment agitaient le chiffon nucléaire. Alors, pour nous, il y a trois conséquences, en fait, à ça. Enfin, il y avait trois publics visés, enfin, qui le sont toujours. D'abord, l'opinion publique russe en interne, afin de rappeler à la Russie que c'est une grande puissance nucléaire, donc que l'argent qui est consacré à la dissuasion vaut le coup. Le deuxième public étant les dirigeants occidentaux, dans une dynamique en fait de les dissuader de fournir de l'aide occidentale à l'Ukraine. Alors, ça a mieux marché sur certains dirigeants occidentaux que d'autres, notamment ceux qui n'ont pas forcément une très grande culture nucléaire, qui ont toujours des relations compliquées avec la Russie. Bon, je pense évidemment aux dirigeants allemands. On espère changer un petit peu avec Friedrich Merz. Et puis, le troisième public, évidemment, c'est l'opinion publique occidentale. Et alors là, malheureusement, ça a quand même assez bien marché. Enfin, oui et non. C'est-à-dire que la Russie espérait, en fait, que, avec ces menaces nucléaires-là, ce recours à la rhétorique nucléaire, que, en fait, les opinions publiques occidentales allaient manifester dans la rue pour expliquer à leur gouvernement qu'il était totalement irresponsable de fournir de l'aide occidentale à l'Ukraine, étant donné que ça allait nécessairement provoquer une escalade nucléaire. Heureusement, ça n'a pas si bien marché que ça. Et les Russes eux-mêmes reconnaissent en réalité que cette rhétorique nucléaire n'a peut-être pas été suffisante pour atteindre ce but dissuasif. Et c'est notamment ça, en fait, qui a motivé les évolutions de la doctrine nucléaire russe qui ont été publiées en novembre 2024. Cependant, il y a quand même eu un effet concret sur la population, aussi sur les médias. Il faut quand même s'en rendre compte avec, voilà, énormément de temps consacré à l'analyse de cette rhétorique nucléaire russe et parfois qui, selon moi, en fait, a fait le jeu du Kremlin et lui a donné beaucoup trop de retentissement. Donc ça, c'est en Occident.
Mais est-ce que ça a poussé d'autres pays à investir ou à réinvestir? Là, je parle de, par exemple de la France, hein, qui jadis posséda des armes tactiques nucléaires.
Oui.
Est-ce que ça pousse les pays, en fait, à se refaire une spécialisation?
Oui, en fait, le contexte nucléaire de la guerre en Ukraine, avec aussi le narratif, en fait, pas tout à fait exact, du fait que l'Ukraine aurait rendu les armes nucléaires soviétiques qui étaient déployées sur son territoire, et donc, si elle avait gardé ses armes, ce qui n'aurait pas été possible à l'époque, hein, étant donné qu'ils n'avaient pas les infrastructures de contrôle de ces armes nucléaires, auraient échappé à l'invasion de la Russie, ça a évidemment redonné un peu des lettres de noblesse aux armes nucléaires. Alors, pas sur le nucléaire tactique, en tout cas pas en France. Il faut bien se rendre compte que...
États-Unis ou en Chine.
Alors, il y en avait déjà. Les États-Unis...
En fait, est-ce que ça a provoqué une accélération du
programme?
Non,
parce que en réalité, les armes nucléaires tactiques, ça ne représente qu'une petite partie de l'arsenal nucléaire russe et que la menace était évidemment sur l'emploi d'armes nucléaires tactiques en Ukraine, mais l'effet dissuasif qui était exercé sur les opinions publiques occidentales, c'était aussi celui, en fait, d'un emploi, pourquoi pas, d'une arme stratégique contre l'OTAN. Donc, en fait, pour moi, il faut aller au-delà de cette distinction entre stratégique et tactique. On peut se rappeler aussi, d'ailleurs, un accord dont on n'a pas parlé, mais c'était donc là aussi à la fin de la guerre froide, enfin, début des années 90, à la fois les Russes et les Américains, au travers des Presidential Nuclear Initiatives, se sont là aussi accordés pour réduire très largement leurs inventaires d'armes nucléaires tactiques, notamment toutes les armes nucléaires tactiques américaines qui étaient déployées en Corée du Sud. Mais dans tous les cas, oui, cette présence du nucléaire dans la guerre en Ukraine a provoqué un réel intérêt, un regain d'intérêt pour les États dotés. Tous les États dotés aujourd'hui continuent de moderniser leurs arsenaux, voire les augmentent. Et puis, ça a aussi suscité une tentation, par exemple en Corée du Sud. Quand on voit en fait qu'ils peuvent peut-être avoir moins confiance en Donald Trump qu'avant, en voyant la montée en puissance de la Chine, la montée en puissance de la Corée du Nord, eh bien oui, ils sont beaucoup plus tentés et ouvertement par les armes nucléaires qu'avant. Évidemment, l'Iran, mais c'est un sujet qui date d'avant la guerre en Ukraine, l'Arabie Saoudite, pourquoi pas la Turquie, mais c'est vrai que à nouveau,
l'Égypte,
oui, peut-être, Japon, peut-être un jour.
La Pologne.
Pologne, c'est plus compliqué vu qu'ils sont quand même dans l'OTAN, qui reste une alliance nucléaire. Et puis début mai, on a quand même signé le traité de Nancy entre la France et la Pologne qui comprend une clause qui a quand même une forte dimension nucléaire. Mais oui, il y a un revival en fait de l'arme nucléaire, mais au sens large, pas forcément que de l'arme nucléaire tactique.
Oui, alors.
Louis Gauthier.
Oui, non, mais je pense que d'une certaine manière, la dissolution de cette architecture de sécurité crée évidemment des inquiétudes partout. Certains veulent ou imaginent pouvoir accéder à l'arme nucléaire et d'autres demandent des réassurances. Il fallait être deux pour bâtir cette architecture et l'imposer au reste du monde, qui a suivi cette dynamique d'une certaine manière. Et puis, il fallait être deux pour la détruire et créer cette anarchie. On a souligné à la fois les initiatives de Bush, de Trump, de Poutine, etc., successives, qui ont contribué à détruire cette architecture que les États-Unis, et l'URSS, puis la Russie avaient construit. Et aujourd'hui, au fond, face à cette crainte de désordre international, un certain nombre de pays sont dans des logiques régionales, qu'est-ce qui va se passer? D'autres sont, je pense en particulier aux trois grands, la Chine, la Russie et les États-Unis, dans un rapport de comparaison de leurs capacités technologiques. D'autant que pour la Russie, l'investissement a toujours été fait dans ce domaine, alors que, on l'a vu en Ukraine, dans le domaine conventionnel, ils ont marqué un certain nombre de retards. Et puis, non seulement l'inquiétude naît de cette absence de discipline entre les deux ex-grands ou les trois grands, mais aussi du défaut de garantie américain en Europe.
Parce que ce que souligne...
Ce que souligne la guerre d'Ukraine, c'est que la menace nucléaire qui semblait s'être volatilisée après la fin de la guerre froide, plus d'équilibre de la terreur, eh bien, d'une certaine manière, réapparaît au cœur de l'Europe, avec les gesticulations de Poutine dès février 2022, la mise en alerte des forces russes, la mise en alerte aussi en réponse de forces européennes, mais ce tir de missile à Dnipro que j'évoquais tout à l'heure en novembre 2024. Et donc, il y a évidemment une inquiétude. Et à ce moment-là, les Européens se retournent légitimement vers Trump, vers l'administration américaine. Et là, on a un partenaire qui semble défaillant, qui ne semble pas être au rendez-vous, qui ne semble pas aligné sur les intérêts de sécurité de l'Europe. On le voit dans la négociation sur le cessez-le-feu ou la fin des hostilités en Ukraine. Donc, l'angoisse augmente. Et d'une certaine manière, les Européens peuvent s'en prendre un peu à eux-mêmes, d'être restés d'une certaine manière sur le siège arrière tout le temps, alors que justement la fin de la guerre froide leur donnait la possibilité d'être acteurs de leur destin. La guerre d'Ukraine montre qu'effectivement, aujourd'hui, s'ils ne sont pas davantage présents, s'ils ne rentrent pas dans des discussions stratégiques, d'une certaine manière, l'ouverture faite par la France, je pense qu'on y reviendra, d'envisager une européanisation de la dimension de sa dissuasion, montre qu'il y a évidemment des attentes de ce côté. Sur un point très particulier, constatons quand même que l'abandon du traité INF interroge directement les Européens, y compris d'ailleurs sur leurs propres capacités. Parce que, évidemment, y compris la France, c'est quelque part un trou dans la panoplie. Nous avons des missiles intercontinentaux tirés par les sous-marins, les Britanniques aussi. Nous avons des missiles emportés sur aujourd'hui les Rafales, mais il nous manque, que ce soit en termes conventionnels ou que ce soit peut-être en termes nucléaires, mais la question y viendra, des missiles avec une élongation aussi importante que ceux que les Russes ont mis sur place. Donc il y a aussi une interrogation sur la manière dont les panoplies européennes doivent s'adapter, ce qui a une incidence sur la dissuasion, parce qu'autant, alors évidemment un missile il peut être tiré d'une certaine manière comme on veut, en fonction de la programmation du tir, je pense au tir des missiles embarqués sur sous-marins, mais d'une certaine manière c'est pas pareil si vous restez dans le cadre de la dissuasion française tous azimuts, qui vise à atteindre n'importe quel point de la planète, ce qu'on a obtenu dans les années les plus récentes, effectivement, et puis de se dire que c'est une dissuasion qui va être désormais beaucoup plus ciblée, comme elle l'était quelque part d'ailleurs du temps de la guerre froide, même si on ne le disait pas, par la problématique d'un risque d'antagonisation avec la Russie. Donc vous voyez, cette guerre en Ukraine, elle suscite toute une série de questions, et évidemment le mieux serait d'y répondre par de nouvelles disciplines de désarmement, par la réouverture de discussions dans lesquelles les Européens, cette fois, seraient partis. Mais voyez bien que même pour obtenir le cessez-le-feu en Ukraine, on ne parvient pas à être aligné sur notre allié américain et évidemment pas sur les propositions ou la manière dont Poutine conçoit cette négociation.
Héloïse Fayet, si on prend les dossiers les uns après les autres, est-ce qu'on peut expliquer où en sont dans leur développement ou dans leur modernisation des arsenaux nucléaires la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord? Le cas iranien, on en parlera après.
Alors la Chine est clairement la plus avancée aujourd'hui en termes d'accélération de son arsenal. C'est-à-dire que donc nous sommes en 2025. En 2020, on estimait leur arsenal à environ 250 têtes nucléaires stratégiques, c'est-à-dire moins que la France ou que le Royaume-Uni. Et aujourd'hui, comme le disait Louis, on est à peu près à 600 têtes.
L'objectif, c'est de dépasser les États-Unis?
Alors, on ne sait pas clairement quel est leur objectif, mais en tout cas, oui, il y a une recherche au moins de parité avec les États-Unis qui, rappelons-le, sous le traité New Start, donc qui expire en février 2026, ils sont limités à 1550 têtes nucléaires stratégiques déployées. En revanche, ils en ont encore plus en réserve. Donc aujourd'hui, il semble assez improbable que la Chine ait exactement le même nombre de têtes nucléaires stratégique que les États-Unis en tout. En revanche, atteindre 1500 têtes nucléaires, c'est faisable en 2035, selon certaines analyses américaines. Après, comme on le disait, il y a une différence entre quantité et qualité, c'est-à-dire que la Chine n'a pas encore de SNLE, donc de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins discrets. Donc le SNLE peuvent être facilement traqués, ce qui veut dire qu'ils n'ont donc pas de permanence en fait de la dissuasion, parce que la meilleure façon d'être capable de répliquer à une attaque nucléaire ou une attaque conventionnelle de grande ampleur sur votre territoire, c'est d'avoir en fait en permanence un SNLE à la mer. Après, les Chinois, eux, ont fait aussi le choix de silos de missiles balistiques intercontinentaux.
Héloïse, je pense autant l'objectif à 1500, hein, raison de souligner que c'est un objectif lointain qui est peut-être pas nécessaire. En revanche, la sous-catégorie des 700 lanceur déployé qui est dans New Start, à mon avis, c'est une limite vers laquelle ils tendent naturellement.
Oui, parce qu'effectivement, contrairement par exemple à la France, qui a maintenant des SNLE et des avions, donc des Rafales, qui peuvent tirer des missiles de croisière à tête nucléaire, la Chine, elle fait le choix d'une triade nucléaire, c'est-à-dire qu'ils ont à la fois des SNLE, qui, donc, comme je disais, ne sont pas très discrets, ils ont aussi des bombardiers, mais dont le rayon d'action n'est pas très développé, même s'ils font des progrès là-dessus, et effectivement, ils ont aujourd'hui un peu moins, je crois, de 400 lanceurs terrestres, donc à la fois mobiles, mais aussi fixes, donc des silos, en fait, qui peuvent être équipés d'un missile balistique intercontinental capable donc de frapper les États-Unis. Et ils en ont tellement qu'en fait, aujourd'hui, c'est impossible d'imaginer une frappe préemptive de la part des États-Unis qui permettrait en fait de détruire tous les sites nucléaires chinois d'un coup, alors que c'était possible en fait avant, quand les Chinois avaient beaucoup moins d'armes nucléaires. Mais là aussi, la corruption au sein de l'Armée populaire de libération et des problèmes politiques font que, en réalité, l'année dernière, on a découvert notamment que le carburant de certains missiles intercontinentaux, au lieu d'être du carburant, et bien en fait, c'était de l'eau et du sable. Donc en fait, là aussi, il y a beaucoup de démonstrations, il y a beaucoup de pas vraiment d'esbrouf, mais là aussi de signalements destinés à montrer la puissance de l'arsenal nucléaire chinois. Et surtout, les Chinois sont très clairs sur une chose, tant qu'effectivement, ils ne se sentiront pas à égalité, ou sur un pied d'égalité vis-à-vis des Américains, ils n'iront pas vers une maîtrise des armements, enfin en tout cas un accord bilatéral ou trilatéral, sauf si les Russes sont dedans et les poussent à le faire. Mais ils voient en fait la maîtrise des armements non pas comme une façon de réduire des risques stratégiques, d'aller vers plus de transparence, plus de communication, mais uniquement comme un frein à leur propre croissance dont ils se sentent totalement légitimes, étant donné que leur objectif, c'est quand même d'être la première puissance mondiale, à la fois sur le plan économique et sur le plan politique.
Et on peut dire, pour compléter, que pareil, pour la Russie, il y a des effets de démonstration, on monte ses muscles, mais l'hypervélocité des missiles russes, bon, on n'a pas, pour l'instant, particulièrement étonné. Les effets de démonstration que tu as faits ne sont pas complètement aboutis. Mais on est quand même, là encore, sur des tendances. Et ces tendances, elles sont globalement négatives parce qu'elles montrent à la fois la montée en gamme technologique dans tous ces arsenaux, la difficulté de parer une frappe nucléaire, la diversification de ces arsenaux et aussi une poursuite quantitative, notamment du côté chinois. Donc c'est vrai qu'il serait urgent de revenir à une forme de rationalisation de cette compétition. C'était Monod qui disait, la dissuasion nucléaire, c'est la mort assurée ou programmée de l'humanité. Je crois que c'était programmée ou acceptée de l'humanité. Ce qui voulait dire que tant que le jeu de la dissuasion joue, c'est possible. C'est parce qu'on a la peur du pire que, d'une certaine manière, on ne rentre pas en guerre, on n'escalade pas dans les conflits. Et donc la vraie question qui est posée aujourd'hui, dans ce désordre, c'est comment le jeu de la dissuasion joue encore de manière efficace pour éviter que les conflits débordent. D'une certaine manière, en Ukraine, ça a quand même marché, parce que le conflit est resté confiné. Les Occidentaux ne sont pas rentrés dans la belligérence directe. Voyez bien l'Inde et le Pakistan,
ça marche aussi entre l'Inde et le Pakistan.
Mais voyez bien que plus vous multipliez les acteurs nucléaires, plus dans certaines zones, on pense en Asie, il y a une surimplication des acteurs nucléaires, plus c'est difficile. On dissuade bien à deux. À 3, à 4, comment ça se passe? C'est compliqué. Et donc, il y a un besoin, c'est clair, on l'a tous dit. En tout cas, ça ramènerait à plus de sérénité à des discussions sur le nucléaire. Par ceux qui sont les grands acteurs aujourd'hui, les grandes puissances militaires et nucléaires, les membres du P5. Pourquoi? Parce qu'ils créent aussi des dynamiques. Quand vous ne donnez pas l'exemple, comment vous voulez que les autres vous suivent?
Oui, tout à fait. Et donc, pour revenir à votre question, effectivement, sur Inde et Pakistan.
Et Corée du Nord aussi.
Et Corée du Nord. Alors là, sur Inde et Pakistan, on est sur une dynamique beaucoup plus régionale, même si c'est un petit peu en train d'évoluer en Inde, en fait, qui commence à s'inquiéter de la montée en puissance de la Chine. Mais donc, en fait, on est vraiment sur une trajectoire très commune en Inde et au Pakistan. Donc, l'Inde a fait ses premiers essais d'armes nucléaires en mai 98. Le Pakistan a fait les siens 3 semaines plus tard. Ils ont un arsenal assez similaire. La plus grosse différence étant que les Pakistanais n'ont pas de sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, et aussi que l'Inde a officiellement une posture de non-emploi en premier, c'est-à-dire qu'ils affirment qu'ils n'utiliseront pas d'armes nucléaires tant qu'ils n'auront pas eux-mêmes été frappés par une arme nucléaire sur leur territoire. C'est la même doctrine que la Chine, même si en fait, en Inde et en Chine, on commence quand même à se poser des questions sur la véracité de cette doctrine-là, mais on est beaucoup plus sur un duopole, en fait, en Inde et au Pakistan, avec aussi, étant donné que les distances sont bien moindres, des armes nucléaires avec une capacité qui est beaucoup plus petite. Donc là, on peut dire qu'on est sur des armes nucléaires tactiques, avec des missiles dont certaines charges sont entre 10 et 40 kilotonnes. Pour mémoire, Hiroshima, c'était 15 kilotonnes. Et donc voilà, sur une dynamique beaucoup plus régionale, mais qui est à peu près stable. C'est-à-dire qu'il y a une modernisation partielle, mais pas aussi importante que ce que l'on voit, par exemple, aux États-Unis, en Russie ou même en France. Et alors, le cas de la Corée du Nord, c'est évidemment assez inquiétant aujourd'hui, étant donné qu'ils font plusieurs dizaines d'essais balistiques par an, alors sans tête nucléaire, hein, mais en tout cas, ils testent de plus en plus de vecteurs, et surtout, ils testent de plus en plus de vecteurs différents. Et là, je rejoins aussi ce que disait Louis Gauthier, c'est que plus on a d'armes nucléaires différentes, en fait, plus on peut être tenté potentiellement de les utiliser, surtout si ce sont des armes nucléaires qu'on peut considérer comme tactiques, avec une faible emport, en fait, une faible puissance, parce qu'on va se dire, bon, bah, finalement, c'est pas si grave que d'utiliser une arme nucléaire tactique, alors que la doctrine française a toujours été non. Utiliser une arme nucléaire, qu'elle soit tactique ou stratégique, en fait, ça reste une arme nucléaire. Et en fait, c'est pas du tout la même chose, par exemple, aux États-Unis, en Russie, ou même en Corée du Nord, qui là commence quand même à développer des arsenaux, non pas que pour en fait protéger le régime nord-coréen, mais aussi potentiellement dans une dynamique d'emploi contre la Corée du Sud. Et alors là, pour avoir des discussions en fait avec la Corée du Nord sur le nucléaire, c'est extrêmement compliqué. On se souvient que Donald Trump avait lancé effectivement une dynamique où il avait rencontré Kim Jong-un en 2017-2018, si mes souvenirs sont bons, et puis finalement c'était tombé à l'eau, et puis ensuite Trump avait repris ses surnoms extrêmement savoureux de
Rocketman.
J'ai un bouton plus gros que le tien sur mon bureau et il fonctionne mieux. Enfin voilà, on était retombé sur un vocabulaire trumpien plus habituel.
Ce qu'on a vu aussi en Ukraine à un moment, c'est-à-dire est-ce qu'il y aura une tentation d'usage? Les armes nucléaires aujourd'hui n'empêchent pas les conflits, mais c'est des armes d'interdiction de l'escalade dans les conflits. En revanche, il y avait un tabou moral extrêmement fort. Tu as cité Hiroshima et Nagasaki. Au mois d'août, on va célébrer ce triste anniversaire de ces deux bombardements. Mais c'est 80 ans après. La conscience de l'humanité, la conscience de ceux qui avaient vécu, qui avaient été témoins ou qui avaient, comme même ma génération, après coup, mais par la littérature, par le cinéma, tout ça, c'est un peu, je vais pas dire volatilisé dans les consciences, mais sans doute moins prégnant. Et donc, ça crée le risque que moins de discipline, bah, on viole un jour le tabou de l'interdiction, moins de prise de conscience, le tabou de l'interdit moral, eh bien, quelqu'un s'en affranchisse avec des armes qui permettraient des frappes de moindre importance. C'est là, Héloïse l'a aussi dit, qu'il est important de rappeler, peut-être pour resituer les discussions qui ont cours entre les Européens, que c'est vrai que les Européens sont très attentifs à ne pas voir dériver le statut de ces armes, à ce qu'elles restent bien des armes de dissuasion et rétablissent bien un rapport dissuasif, en particulier sur le vieux continent avec les Russes, d'où les propositions du président de la République, répétées encore au moment où il a signé cet accord de partenariat plus étroit avec la Pologne les jours derniers, d'envisager comment les arsenaux français et britanniques participaient à la dissuasion de l'Europe occidentale, de l'Union européenne et des alliés européens de l'OTAN. C'est pas nouveau, il l'a répété, voilà, d'autres ont fait ces ouverture. Ce qui est nouveau, c'est que ça intervient dans un moment stratégique tellement particulier. Il y a une guerre majeure en Europe et puis, pour la première fois, je le disais, un conflit qui est en ambiance nucléaire. Donc,
une autre portée. Les autres pays européens le réclament.
Et puis, troisièmement, devant la crainte du défaut américain, les demandes de réassurance stratégique de nos partenaires européens et notamment vis-à-vis de la France. Et donc, c'est là où il faut peser au trébuchet les propos qui sont indiqués. Bon, c'est vrai que nos intérêts vitaux, on peut le comprendre, intègrent les intérêts vitaux de nos partenaires. Mitterrand l'a dit, la déclaration des Chequers de Chirac, on n'imagine pas de situation où la survie de la Grande-Bretagne serait en cause sans que la survie de la France. Oui, Mais d'abord, la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni était un acteur nucléaire. Ensuite, on pouvait se dire vis-à-vis de l'Allemagne. Bah oui, parce que même pendant la guerre froide, on n'imaginait pas que l'Allemagne soit rayée de la carte sans que la France passe immédiatement après à la trappe. Et donc, cette solidarité, elle existait. Comment on fait dans une Europe à 27, avec des pays qui ne sont pas alignés dans leur doctrine stratégique, et alors qu'on n'a pas encore conçu une doctrine stratégique ou les moyens de la sécurité collective des Européens? Et la dissuasion nucléaire, c'est la toiture. Il faut d'abord des fondations, qu'on soit d'accord sur cette doctrine, sur la politique militaire, sur la contribution des Européens à leur défense collective, avec ou sans les Américains. Ensuite, il faut des armes conventionnelles qui permettent d'assurer cette sécurité collective. Il faut voir comment va évoluer le bouclier antimissile, notamment d'initiative allemande. Et puis ensuite, vous avez la dissuasion nucléaire. Et si on ne traite pas ces trois couches ou ces trois ensembles, la dissuasion nucléaire, elle n'est pas suspendue en l'air. Elle est ancrée. On ne passe pas, du tir de canon de César à la bombe atomique. Donc, dans la doctrine française, cette gradation, elle existe. Et elle est rapportée à nos intérêts stratégiques et à nos capacités conventionnelles et nucléaires, qui fait qu'à partir de certains moments, la France, du temps de la guerre froide et après, a considéré qu'elle ne poursuivrait pas dans une destruction conventionnelle, mortifère, et qu'elle tirerait le coup d'arrêt nucléaire pour dire « on arrête les frais ». Mais ça, c'était rivé aux intérêts vitaux et aux intérêts français. Et si on veut l'élargir à d'autres, dans des stratégies de déni d'accès qui sont, à mon avis, justifiées, bah, il faut évidemment s'entendre sur la gradation et sur la cohérence d'une politique d'ensemble de sécurité collective. On voit bien, aujourd'hui, la Pologne, l'Allemagne, le Royaume-Uni, que cette discussion peut s'établir, et avec des partenaires proches, la Belgique, les Pays-Bas et d'autres États vraisemblablement. Ben, c'est plus difficile. Moi, je ne sais pas ce que pense M. Orban, je ne sais pas ce que pense le Slovaque Fico, je ne sais pas. Et qui louche à la fois sur Moscou et sur Washington. Et vous ne pouvez pas bâtir une doctrine de défense, une politique de sécurité collective, si vous n'avez pas défini vos intérêts et éventuellement vos adversaires ou ceux contre quoi vous luttez.
Héloïse Fayet, il y a quand même un gros éléphant dans la salle, c'est le programme nucléaire iranien. En cas d'échec des négociations menées par Trump, et si Israël renonce à mener des frappes contre les installations militaires de l'Iran, quelles seraient les conséquences en termes de prolifération d'un Iran qui serait un Iran doté?
Justement, je pense qu'il faut espérer qu'Israël ne conduise pas de frappe contre les installations militaires iraniennes, étant donné que c'est considéré comme le facteur qui pourrait pousser l'Iran à proliférer. Parce qu'aujourd'hui, donc, on considère, et les services de renseignement israéliens et américains sont d'accord là-dessus, pour dire qu'en fait, l'Iran n'a pas d'armes nucléaires, c'est très important de le rappeler, et surtout qu'ils n'ont pas pris les décisions politiques et techniques pour développer une arme nucléaire. Donc aujourd'hui, en fait, leur programme, il est dans une sorte de hiatus, où à la fois l'enrichissement de l'uranium et certaines avancées techniques font que le programme n'est plus uniquement civil. Donc la justification de l'Iran en disant que c'est un programme strictement pacifique qui sert à la production d'électricité, d'énergie nucléaire et à la recherche n'est pas crédible. Mais de l'autre côté, effectivement, ils ne sont pas clairement engagés sur la voie de la prolifération nucléaire parce que encore aujourd'hui en Iran, même si vous avez de plus en plus de voix qui portent une rhétorique quasiment proliférante, il y a encore un calcul de coût-bénéfice qui est fait et donc qui estime que les bénéfices en fait d'une arme nucléaire sont encore largement inférieurs aux coûts de développement à la fois technique, stratégique, et donc que les moyens de dissuasion conventionnelle dont dispose l'Iran, alors l'axe de la résistance, c'est-à-dire les milices en fait majoritairement chiites au Moyen-Orient, est certes affaibli. Le Hezbollah est en très mauvaise posture du fait de la guerre menée par Israël. La Syrie de Bachar el-Assad a chuté. Il y a encore des milices chiites en Irak qui sont en train d'être intégrés dans le gouvernement irakien. Et donc aujourd'hui, le seul en fait acteur de la résistance, ça reste les Houthis, mais qui ont signé un cessez-le-feu avec les Américains. Donc l'axe de la résistance existe encore, mais est quand même affaibli. Mais l'Iran dispose toujours d'un arsenal de missiles balistiques conventionnels assez robuste, dont il a fait deux fois la démonstration de la précision contre Israël. Et donc aujourd'hui, la dissuasion conventionnelle de l'Iran fonctionne encore. Cependant, effectivement, l'Iran a montré des lignes rouges assez claires sur ce qui pourrait, entre guillemets, le provoquer à franchir le seuil de l'arme nucléaire. Et donc, l'une de ces lignes rouges, ce sont justement des attaques israéliennes contre des installations militaires iraniennes, sachant que dans tous les cas, et les Israéliens le reconnaissent eux-mêmes, que les Israéliens ne peuvent pas faire des frappes efficaces qui pourraient ralentir le programme nucléaire iranien sans aide des États-Unis. Donc en fait, tout ça se passe dans un contexte beaucoup plus large. Et surtout, en fait, l'expiration du JCPOA, donc l'accord de Vienne sur le nucléaire iranien, donc est en octobre 2025. Et donc là, effectivement, le temps passe et on ne voit pas en fait vraiment comment empêcher effectivement la poursuite de ce programme nucléaire iranien, à part là aussi à revenir à un accord, mais qui pour moi est quand même très différent en fait d'accords qui peuvent exister entre deux États dotés de l'arme nucléaire. On est plus sur un accord, voilà, vraiment de non-prolifération. Et là aussi, il faudrait évidemment inclure les Européens, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Mais on est quand même sur un paradigme assez différent. Mais en fait, le JCPOA, comme en fait New Start, lui aussi a été victime de la guerre en Ukraine, étant donné qu'on peut se rappeler que le 23 février...
Il a d'abord
février...
été victime de Trump.
Oui, alors victime de Trump, évidemment,
Trump
en 2018.
Qui s'en retire, vous le savez,
voilà,
en 2018.
Effectivement. Et donc, à nouveau, retraite du FNI, retraite d'Open Skies, retraite du JCPOA. Mais aussi, en fait, le 23 février 2022, il y avait encore des négociations à Vienne sur un possible retour au JCPOA, avec un texte qui était quasiment prêt. Et puis, en fait, le début de la guerre en Ukraine a fait vraiment tout exploser, c'est le cas de le dire.
Oui, alors Israël peut s'enhardir. En réalité, il y a deux fautifs possibles, Netanyahou et Trump. Trump pour avoir cassé un processus qui était évidemment extrêmement difficile, notamment sur sa vérification, qui était l'accord de Vienne, JCPOA et les contrôles. Et du côté d'Israël, bah, un peu la tentation ou le chantage de la fuite en avant. Voilà, je pense que Héloïse a raison de souligner que de toutes les façons, alors ils peuvent s'en hardir parce que c'est vrai que les Israéliens ont fait un coup au but. Ils ont montré magistralement qu'ils étaient capables de mener un raid et de détruire notamment les défenses antimissiles aériennes,
une partie
des défenses antiaériennes de l'Iran. Mais il n'a pu le faire qu'avec d'abord des autorisations de survol d'un certain nombre de pays, avec le soutien ou l'appui américain et aussi une déconfliction. Ce qu'on oublie de dire, c'est que les Iraniens étaient largement prévenus de ce qui les attendait du fait de leur propre action ou tentative d'action contre Israël. Donc je pense qu'il faut rationaliser tout ça, et voilà, et les acteurs que je citais sont capables de le comprendre, ce qui fait d'ailleurs que Trump a réouvert une voie de négociation avec l'Iran, mais qui nous ramène, Héloïse le disait, ce qui étaient les paramètres de la négociation qui a été abandonnée 2018-2022, qui ferait que l'Iran serait une sorte d'état du seuil, mais s'interdisant de franchir les barrières ultimes de l'opérationnalité sous contrôle international de l'AIEA, d'où l'importance des contrôles. Donc avec une limitation de sa capacité à enrichir, de la limitation du stock de matières fissiles qu'elle détient et du niveau d'enrichissement inférieur à 3,7, Héloïse, je sais pas, c'est
67.
Ça, 67, voilà. Et tout ça sous contrôle. Donc on peut revenir, et c'est là où c'est intéressant, parce que d'une certaine manière, il aura été le grand destructeur, en partie, de cette architecture, qui quand même, disons-le, était obsolète, hein, impliquait des aménagements pour les décennies à venir. Mais peut-être que ça va repartir de ce traité qu'il a dénoncé, auquel on revient, et qui serait, au fond, pour la première fois, parce que Héloïse le signalait, c'est une discussion américano-iranienne, mais elle implique quelque part d'être adoubée par les Russes, par les Chinois, par les autres acteurs nucléaires. Peut-être, espérons-le, que la pompe pourrait être réamorcée par ce fil ténu de la discussion entre Américains et Iraniens. Rien n'est sûr à ce sujet.
Oui, parce que l'avantage de Trump, quand même, là-dessus, c'est qu'il ose tout. Enfin, c'est-à-dire qu'il ose aller, justement...
Si le rapprochement entre les États-Unis et Vladimir Poutine se poursuit, est-ce qu'on peut faire renaître et revivifier New Start ?
Alors, sur le plan déjà juridique, en fait, c'est compliqué d'imaginer de renouveler New Start. Après, pourquoi pas un nouveau format ? Alors, c'est complexe quand même, parce que autant effectivement Trump semble voir d'un bon œil, et encore c'est en train un peu de se dégrader là, Poutine, en revanche, quand on échange avec des Russes qui pourraient être impliqués dans ce processus là, ils ne font pas trop confiance à Trump.
Et puis n'oublions pas les Chinois, pour que des négociations vaillent, ce que tu as déjà dit, il faut les impliquer.
Voilà, donc effectivement Trump en fait peut effectivement faire ses grands discours sur sa volonté de dénucléariser le monde, il peut peut-être lancer un peu des appâts, lancer des discussions. Après, il a quand même beaucoup de mal à conclure tout ce qu'il lance. Et à mon sens, aujourd'hui, les Russes, en fait, ne voient pas vraiment l'avantage qu'ils auraient à signer un nouvel accord avec les États-Unis. Mais bon, sans paraphraser Audiard, au moins, voilà, il ose tout, c'est peut-être à ça qu'on le reconnaît.
Bon, ben alors, écoutez, c'est une magnifique conclusion. C'est l'heure de la fin de cet épisode consacré au traité START de désarmement stratégique. Merci beaucoup à vous deux.
Héloïse Fayet et Louis Gauthier. C'était Les Grands Accords Internationaux, une émission d'Isabelle Lasserre réalisée par Laure-Hélène Planchet, avec à la technique aujourd'hui Jérémy Kaufmann, attaché de production Théa Corlaire. Vous pouvez réécouter, podcaster cette émission sur le site franceculture.fr.